Cela indique que le pays est là sous la domination de Rome. Sous la domination de Rome. Alors, est-ce que c'était quelque chose qui était subi ou souhaité par les habitants? Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais dans l'histoire d'Astérix, en tout cas, il y a un petit village qui résiste en vain et toujours contre l'envahisseur. On va commencer une série de quatre messages qui va s'intituler « L'Empire du péché ». L'Empire du péché. Et je vous propose cette image comme illustration de cet empire romain de l'époque de Paul qui dominait tout le monde civilisé du bassin méditerranéen. Et un petit peu l'idée que présente Paul à la fin de cet exposé de ces quatre chapitres, de ces trois chapitres qu'on va voir dimanche après dimanche. Je vais peut-être enlever le masque. Et Paul conclut en disant le monde entier est sous le péché. Alors, il va s'attacher à démontrer cela, que le monde entier est sous la domination du péché, l'humanité entière, sous la domination du péché, et que l'histoire d'Astérix qui révise en vain et contre l'occupant qui se résiste en vain, on voudrait nous être ces Astérix. On s'identifie dans la bande dessinée à ces personnes qui résistent contre les Romains. Et nous aussi, on a l'impression des fois qu'on résiste contre le péché, qu'on lutte contre lui, qu'on a notre potion magique qui nous permet de ne pas être sous la domination de ce péché, mais en fait l'apôtre va démontrer que Astérix n'a jamais existé, ni le druide Panoramix avait sa potion magique, et que vraiment le monde entier et nous sommes sous la puissance du péché. Et on va voir donc cela en un premier temps, et après on verra la solution de Dieu pour sortir son peuple de cette domination, hein, comme les peuples qui avaient été esclaves en Égypte étaient sous la domination de Pharaon. C'est aussi une autre image. Alors, est-ce qu'il y a parmi nous peut-être des personnes qui avons la version, parce que moi j'ai préparé un texte là, mais qui est la nouvelle Bible seconde, qui est un peu ardue peut-être à suivre. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont la version de la Bible du Semeur, par exemple? Autrement, on va faire avec ça, c'est pas grave. Ce sera à moi de bien expliquer. Alors, le titre d'aujourd'hui, on va aller du verset 18 de Romains chapitre 1 jusqu'au verset 32. Et le titre d'aujourd'hui, « Les hommes rebelles à Dieu ont mis Dieu en colère. » Alors, Dieu en colère les a livrés à eux-mêmes. Mais ils persistent. Et nous, est-ce que nous persistons? Dans ce passage, Paul semble un peu s'adresser à des élites. On sait que les élites ont une grande influence sur la société. Alors, est-ce que ce sont vraiment les élites qui sont coupables, qui sont visées par Paul ici? Ou est-ce que les élites qui sont en place, finalement, ce sont les personnes qui se les donnent, le peuple qui se donne, les élites qu'ils souhaitent? Et cette vision des choses, on peut dire que les gens simples, comme les élites, vont être reconnus coupables au tribunal de Dieu. Je vais lire la première partie du texte du verset 18 au verset 23. La colère de Dieu, en effet, se révèle depuis le ciel contre toute l'impiété, l'injustice des gens, des hommes, des femmes, des humains, qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux. C'est Dieu qui, pour eux, l'a rendu manifeste. En effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit très bien depuis la création du monde. quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, verset 21, je suis, puisque tout en ayant connu Dieu, par la création, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils lui ont pas dit merci, ils se sont égarés dans des raisonnements futiles, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu impérissable en des images représentant l'être humain périssable, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Dieu est en colère dans ce texte. Il déclare en colère. Alors, Dieu peut-il être en colère, ce Dieu d'amour? Cela peut se comprendre quand on considère nous-mêmes, créés à l'image de Dieu, ce qui nous met en colère. Et, bon, David Paulinson, qui est un conseiller qui a beaucoup réfléchi sur ces sujets-là, il a dit, dans beaucoup de relations d'aide, ce qui nous met en colère, c'est l'injustice et le mal. Le mal qui est injuste. Quelque chose de mal, quelque chose qui est injuste, va provoquer chez nous de la colère. Et le problème des hommes, c'est que cette colère, elle n'est pas du tout canalisée. Et des fois, on se trompe, parce qu'on a un mauvais jugement sur ce qui est juste ou pas, ce qui est bien ou ce qui est mal. Et des fois, on se met en colère, et puis le résultat de notre colère est plus grave que le mal qu'elle est censée, contre lequel elle est censée s'opposer. Mais pour Dieu, ce n'est pas la même chose. La colère de Dieu est sainte, elle est juste et elle est agissante. Elle est agissante. Les hommes retiennent la vérité captive dans l'injustice. Comment se représenter ça? Est-ce que vous avez déjà assisté à un procès? Des fois, il y a des affaires qui sont médiatisées. Et il y a telle affaire de mœurs, telle affaire de criminalité, ou telle affaire d'homme qui a été corrompu. Et on veut connaître la vérité. On souhaite que dans le procès, la vérité éclate. Et des fois, cette vérité, on a l'impression qu'elle n'éclate pas, qu'elle est étouffée, que le procès est tout truqué, que c'est une parodie de justice. Et à ce moment-là, en nous se déclenche une colère. Ce n'est pas normal. Et ainsi, Dieu dit que les hommes, la vérité, ils la gardent captive, ils l'empêchent de s'exprimer, ils la mettent sous les mauvaises choses, dans l'injustice. On a un petit peu cette idée-là. Et Paul va, à plusieurs reprises dans notre texte, à des moments donnés, dire pourquoi Dieu est en colère et pourquoi il a raison d'être en colère. Il ne va pas tout dire au début, il va l'égrener un petit peu dans le texte et on va voir ça en le parcourant. Dieu est en colère parce que les hommes ont capturé la vérité. Pourtant, Dieu s'est fait connaître à ces hommes au verset 20. L'observation que chacun peut faire de ce qui l'entoure indique que Dieu existe. Et quelqu'un peut peut-être chercher le psaume 19. On va lire un passage tout à l'heure. Donc, à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait le polythéisme. Tout le monde sait ça, cette kyrielle de Dieu. Et dans l'Empire romain, il n'y avait pas de problème d'intégration. Lorsque un peuple était conquis, il avait ses dieux, ben on faisait de la place pour ces dieux-là, voilà. Et il y avait des dieux de toutes sortes de divinités pour toutes les situations et toutes les personnes. Et quelle était la place du Dieu créateur là-dedans? Ben, c'était vraiment pas une question que les gens se posaient. Ils avaient leur divinité qui leur suffisait. Et ils ne voulaient pas chercher plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas une divinité? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire? La mythologie est très vague. Les mythologies sont très vagues et très floues sur cette question-là. seuls les dieux qui sont à portée de notre main peuvent nous aider. Le monde est monde depuis tellement longtemps, les choses continuent. S'il y a un Dieu créateur, il est trop loin, il ne s'occupe pas de nous. De toute façon, débrouillons-nous et comptons sur nous-mêmes. Aujourd'hui, peut-être on peut faire la lecture du psaume 19, sept premiers versets si quelqu'un l'a. Le psaume 19, les versets 1 à 7.
Sur des chants, sur de David. Et si je raconte la gloire de Dieu, il est rendu manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son de soi est entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans sa carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur.
Rien ne se dérobe à la chaleur, l'heure du soleil. Tout le monde voit cet astre lumineux et qui nous parle de la gloire de Dieu et de sa fidélité. Alors, la nature est très belle. Je ne sais pas si vous avez des ordinateurs comme le mien. J'ai celui du travail de la maison et chaque jour, quand je l'allume, paf, j'ai une belle image qui sort et toutes ces images sont renouveler sans arrêt des beaux paysages. Et c'est formidable comme la nature est belle et comme le monde est beau. Aujourd'hui, on pense que les scientifiques nous disent, ben voilà, il y a des espèces qui disparaissent à cause de l'activité humaine. Et c'est terrible, il faut préserver notre planète, on en a besoin. On peut penser, ben il faut lui donner des droits. Hein? On a un tribunal international qui punit les crimes contre l'humanité, et pourquoi on ne punirait pas les crimes contre la planète, contre la nature? Et un des sujets de la colère de Dieu, on pense à la nature, mais on ne pense pas au créateur de la nature. On ne s'inquiète pas pourquoi elle est là. Et qui l'a mise en place, qui a ordonné cette si magnifique création. Non, ça rentre pas du tout dans le plan des discours des hommes d'aujourd'hui. Peut-être dans certains pays du monde, il y a des discours là-dessus, mais pour ce qui concerne notre pays, pas du tout, pas du tout. Aucune place pour le Créateur. Par contre, on a beaucoup de souci pour la création. Versets 21 à 23. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu impérissable en des images représentant l'être humain périssable, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Un des sujets de la colère à Dieu, verset 21, ils n'ont pas glorifié comme Dieu, ils n'ont pas rendu grâce, ils n'ont pas dit merci. Dilapider, piller ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné pour notre bonheur, et se perdre dans des raisonnements, brouiller les pistes. Ils sont inexcusables. Vous savez, des fois, quand on a des enfants, et on est enfant, on a été enfant nous-mêmes, et il y a quelque chose qui ne va pas, et nos parents veulent nous faire mettre le doigt dessus. Et puis on se met à inventer toutes sortes d'histoires pour noyer le poisson. Et des fois même, on va se mettre à croire dur comme fer à ce qu'on dit, qui est faux, mais que, voilà, on ne veut pas lâcher et reconnaître ce que nos parents veulent nous dire. Je pense qu'on a tous fait cette expérience et on s'enfonce encore davantage. Aujourd'hui, la théorie de l'évolution nous a permis de rayer le Dieu créateur. Il n'y en a plus besoin, on a trouvé quelque chose d'autre qui explique le monde dans lequel nous sommes. C'est la théorie de l'évolution. Le problème, c'est qu'elle sort à bien des difficultés. L'homme est en effet différent des animaux. Hein. Il est une personne, il a une personnalité, il porte un nom. Il a cette capacité de donner des noms à tout ce qui l'entoure, chose que les animaux ne connaissent pas. C'est une personne, et c'est une personne morale. Il a la conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal, qui est complètement étranger aux animaux. Il a également des capacités de création qui n'existent absolument pas chez les animaux. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est un premier témoignage qui rend insensé la théorie de l'évolution. Une théorie qui a très mal vieilli également. Vous savez, les chaînons manquants, ben on retrouve de temps à autre des animaux préhistoriques vivants. Alors, ils sont censés avoir disparu depuis des centaines de millions d'années, et puis les voilà qu'un pêcheur en ressort un de la mer. Ah, c'est incompréhensible. Comment cela est-il possible? Et toutes sortes d'observations que l'on peut faire, même à notre niveau, qui rendent cette théorie quelque part absurde. Et si on considère ces fruits, les fruits de la théorie de l'évolution n'ont que des fruits amers dans l'histoire de l'humanité. Hein. C'est la théorie qui conduit au racisme, la supériorité de certaines races par rapport à d'autres. L'eugénisme, éliminer ce qui ne nous plaît pas, ce qui est considéré comme inférieur, pour améliorer une race qui serait supérieure. L'élimination des faibles, qui finalement ne servent à rien, et la loi de l'évolution veut qu'ils soient éliminés, qu'ils soient balayés, et que seul l'effort subsiste. Le pessimisme qui s'accompagne avec l'absence de sens de la vie. Cette théorie a été également le berceau du communisme et qui a entraîné des dizaines de millions de personnes dans la mort. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous, dit l'apôtre Paul. Comment ça, les sages stoïciens qui disent d'accepter ce qui arrive, de vivre en harmonie avec la nature, des fous, ou les épicuriens. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Apprenons à profiter de la vie, des fous. Un sujet de colère, ils ont changé la gloire du Dieu impérissable par des images représentant le périssable. Les taureaux sont des puissants animaux, et on les admire tellement, on les adore. Et à cette époque-là, on se déclare ainsi en plaçant l'animal comme une divinité. On se place comme plus bête que lui. On est capable d'adorer les belles choses que l'on fait. J'ai fait une si belle statue. À l'époque, c'était ce qui se faisait. Elle est si magnifique. Vraiment, je la place dans mon salon et dans mon cœur et je vais l'adorer. C'est de la folie. Qui est-ce qui est le plus grand? Est-ce la statue ou est-ce la personne qui l'a faite? Pourquoi se prosterner devant? C'est quelque chose qui est insensé, qui n'a pas de sens. Et pourtant, les hommes avec la nature révèle un Dieu glorieux, un Dieu impérissable, un Dieu majestueux, et les hommes font des représentations ils vont jusqu'à représenter la divinité comme des reptiles, hein. Ils se placent comme étant en dessous des petites bêtes, hein, eux qui ont eu la responsabilité de l'administration de la création. Alors, Dieu se met en colère et les livre à eux-mêmes. C'est le passage suivant. Dieu est en colère et cette colère est agissante et il les livre et ils les livrent à eux-mêmes. Cela peut être surprenant. Pourquoi Dieu fait cela? On va lire la suite de notre texte, versets 24 à 31. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'entre eux ils déshonorent leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu par le mensonge, qui ont adoré la création en lui rendant un culte au lieu du Créateur qui est béni pour toujours. Amen. Premier reproche ici, premier jugement. Livrés à l'impureté selon les désirs du cœur. Avec un sujet de colère, ils ont changé la vérité de Dieu pour le mensonge. Cela fait penser à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu leur avait dit de ne pas manger l'arbre du fruit parce qu'ils mouraient. Et Satan est venu et il a dit, vous pouvez manger de l'arbre, vous ne mourrez pas. Satan mentait et ils ont changé la vérité et ils ont pris le mensonge pour leur ruine. Par rapport à cette question de changer ce qu'on a pour autre chose, c'est l'histoire d'un jeune homme, on va l'appeler K, qui était un jeune chrétien, et quand il est arrivé à faire des études, il s'est intéressé à l'étude de la philosophie. Et il s'est plongé là-dedans et il a fait des recherches. Et il faisait ses recherches et comme il apprenait la philosophie, son cœur s'est éloigné de Dieu. Et il a même été jusqu'à sombrer dans la drogue pour pouvoir mieux connaître les choses qui ne lui semblaient pas encore assez accessibles. Et on a cette idée de tout ce que les hommes peuvent produire, toute cette philosophie, tout cet intellectualisme, toutes ces choses qui peuvent sembler séduisantes, en fait, où est-ce qu'elles conduisent? Où est-ce qu'elles conduisent? Quels fruits ils portent? Il est décrit ici, ils ont déshonoré leur propre corps. Ils ont déshonoré leur propre corps. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. C'est un sujet de colère. On dit que le cœur humain est une fabrique d'idoles. Il a tendance à prendre les bonnes choses pour les transformer en bien suprême. C'est Timothy Keller qui a écrit ça dans un livre contemporain, Les idoles du cœur, mais bien avant lui, d'autres ont fait ce constat. Le cœur humain est une fabrique d'idoles. J'aime bien le mois de juin. Mais celui qui a fait le mois... Moi, j'aime bien le mois de juin. C'est mon mois préféré de l'année. Mais celui qui a fait le mois de juin n'est-il pas plus grand que le mois de juin? On rencontre l'histoire d'une jeune fille qui, chaque matin, quand elle sortait de son logement, de son appartement, elle trouvait sur le palier une rose. Ah, ça l'émerveillait tellement que chaque matin, il y a une rose, et elle prenait cette rose, et elle mettait dans un vase. Et le lendemain, encore une autre rose. Oh, c'est formidable, je prends la rose, et puis je décore ma maison avec, et puis elle trouvait chaque matin des roses, et puis elle les faisait sécher, et puis elle était tellement heureuse de trouver ces roses, mais elle n'a pas été plus loin pour penser, mais qui me donne ces roses? Qui me donne ces roses? Qui est cette personne qui se cache derrière ces roses? Elle n'a même pas eu l'idée de réfléchir. Elle, pour elle, c'était recevoir ces roses et se focaliser sur les roses et ne plus rien voir d'autre. Adorer la créature au lieu du Créateur, ça peut prendre toutes sortes de d'effets dans nos vies. Hein. Ensuite, c'est pour cela, toujours les mêmes raisons, la Dieu qui est en colère. Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Ainsi, leurs femmes ont changé les relations naturelles pour des actes contre nature. Et même les hommes, abandonnant la relation naturelle avec la femme, se sont enflammés dans leur appétit les uns pour les autres. Ils se livrent entre hommes à des actes honteux et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Alors là, il est question de la dérive homosexuelle, clairement dans ce passage. La sexualité touche à la transmission de la vie. Et au temps de l'apôtre Paul, comme aujourd'hui, la sexualité est toute puissante, toute puissante. Et on ne doit rien lui refuser. La Bible parle très peu de l'homosexualité. Il y en est question ici dans ce passage. Ce n'est pas un sujet qui retient son attention. Mais chaque fois qu'elle en parle, chaque fois, ce sera dans des termes qui sont négatifs. Qui sont négatifs. C'est ainsi que la Bible le présente, en tout cas, quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir par ailleurs. Et donc là, l'apôtre Paul signale quoi ? Il signale qu'ils ont changé la relation sexuelle naturelle en contre-nature. C'est ce changement qui est mis en avant ici. Quelque chose qui était naturel, qui était relevé de la création et que l'on va tourner, que les hommes tournent pour que ce soit quelque chose qui est contre-nature. Et ça, personne ne le pourra, ne peut le contester, ne le conteste. On doit, en tant que chrétien, quand même, il y a un avertissement hein, que l'on doit se faire. Il ne faut pas, comme on dit, faire la différence entre l'orientation homosexuelle et la pratique homosexuelle, qui n'est pas la même chose. Ici, il est clairement question d'une pratique, d'un changement, de quelque chose qui est volontaire et conscient. Alors, ça, c'est une première chose qu'il faut souligner. Et deuxièmement, quelle place on donne à la sexualité ? On avait vu au printemps dernier que le mariage n'est pas au centre de la spiritualité chrétienne et la sexualité n'est pas au centre du mariage. Donc la sexualité est quand même en périphérie et nos sentiments doivent se soumettre à Jésus-Christ. Nos sentiments doivent se soumettre en tant que chrétien à Jésus-Christ. Vous savez que notre société évolue et bon, moi personnellement, quand je suis tombé préparer ce texte, je me suis dit, mais aujourd'hui, il y a des églises qui accordent la bénédiction aux couples homosexuels qui rentrent dans un cadre qui est une relation fidèle, etc. Mais quels sont leurs arguments bibliques? Comment ils peuvent en arriver là? J'étais curieux de savoir. Et je recevais sur Internet, dans la boîte à lettres de l'Église, il y a différentes personnes qui envoient des choses comme ça dans le courrier de l'Église. Et donc, il y avait une personne, et j'ai compris que cette personne était une femme qui était pasteur. Et elle défendait ce point de vue-là. Elle donnait des explications, elle avait des cours ou des explications qu'elle mettait à disposition pour expliquer voilà les arguments que nous avons. Et je commençais à vouloir regarder tout cela, vous savez, sur Internet c'est tellement facile. Et puis mon explorateur a basculé soudainement. Et je me suis retrouvé sur un webinaire de Jonathan Spencer, de Tout pour sa gloire. Sur le site Tout pour sa gloire, il y a des webinaires qui expliquent, et donc c'était un webinaire de Jonathan Spencer. Je savais qu'il était ce jour-là, j'avais oublié, et je me suis retrouvé en plein livre de commentaires de livres de l'Apocalypse. Et je ne sais pas comment ce changement a eu lieu sous mes yeux. Mon ordinateur, à l'époque, il était très lent et c'était. Je pense que c'est un ange qui est intervenu et qui m'a sorti de cette recherche pour me ramener sur des choses auxquelles je devais me concentrer. Et j'ai pas bougé. J'ai suivi le webinaire de Jonathan Spencer jusqu'à la fin. Et il y était question, entre autres choses, de l'enseignement de Jézabel dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Donc, comme c'était le cas pour Monsieur K, dont je vous parlais tout à l'heure, de faire des recherches dans des domaines où en tant que chrétien, on ne doit pas chercher, on ne doit pas approfondir les choses. Je l'ai pris comme cela, et depuis je me mets à l'égard pour toutes ces tentations que de voir et qu'est-ce qu'il y a ailleurs vraiment, et quels sont les arguments de ces gens-là. Ce n'est pas une bonne chose. Dans sa colère, comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, verset 28, Dieu les a livrés à leur manque de jugement, de sorte qu'ils font des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, d'avidité, de malfaisance, pleins d'envie, de meurtre, de dispute, de ruse, de vice, diffamateurs, médisants, ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons, ingénieux pour le mal, rebelles envers leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans sensibilité, sans compassion. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, un autre sujet de colère. Et donc, Dieu les a livrés à leur manque de jugement, leur manque de discernement. Ils n'ont pas jugé bon de le connaître, ben voilà ce que vous allez connaître maintenant. Dans cette liste de vices, alors, est-ce que vous avez les fonctions mathématiques là? Les « et » et les « ou », je ne sais pas si vous avez appris ça. « Un » et « un », ça fait « un », mais « un » et « zéro », ça fait « zéro ». Les « un » ou « un », ça fait « un », mais « un » ou « zéro », ça fait toujours « un ». Je veux dire par là, est-ce que dans ces listes, est-ce qu'il faut mettre des « et » entre chaque qualificatif ici, ou est-ce qu'il faut mettre des « ou » ? Est-ce qu'on est sous la colère de Dieu ? Si on les a tous, il y a des « et », il faut ça, et ça, et ça, et il faut être et injuste, et méchant, et avide, et malfaisant, et plein d'avis, et meurtrier, et avoir des disputes, et être rusé, et avoir des vices, et faire des médisances. Ou alors c'est des « ou hein ». Est-ce qu'on est sous la colère de Dieu si on fait des meurtres, ou des disputes, ou des vices, ou si on est ingénieux au mal, ou si on est orgueilleux, ou si on est rebelle aux parents? C'est pas la même chose. Vous en conviendrez. Bon, si on demande à l'apôtre Jacques son opinion, il dira c'est le « ou ». Il suffit d'une chose. Pour quelqu'un qui pêche dans un domaine, il se rend coupable de tous les domaines. Je vous propose de refaire une lecture, de non pas avec des « et » et des « ou », mais avec un texte inversé. Alors, le texte inversé donne ceci. Ils font des choses indignes. Ils sont vides de justice, vides de bonté, vides de contentement, vides de bienfaisance. Ils n'ont pas le désir de préserver la vie. Ils n'ont pas le désir d'être en paix. Ils n'ont pas le désir d'être droit. Ils n'ont pas le désir de faire le bien. Ils ne disent pas du bien des autres. Ils ne disent pas la vérité. Ils n'aiment pas Dieu. Ils ne parlent pas humblement. Ils ne réfléchissent pas comment faire le bien. Ils n'écoutent pas leurs parents. Ils sont bêtes. Ils sont faux. Ils sont durs. Et ils sont froids. Alors, Il y a peut-être dans cette liste des choses qui vous font pop comme ça et qui nous montrent que l'empire du péché est une vraie réalité, même dans nos vies de chrétiens, même dans nos vies de chrétiens dans certains domaines. Alors, ces gens-là, ils persistent. Verset 32. Bien qu'ils ne connaissent pas le juste décret de Dieu, lequel, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses, la liste qu'on vient de faire, méritent la mort, non seulement ils font cela eux-mêmes, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Les hommes rebelles à Dieu veulent faire des disciples. Ils veulent faire des disciples. Et est-ce que nous ne sommes pas sous leur influence? Est-ce que nous n'avons pas, nous, tendance à vouloir les suivre de temps en temps? Est-ce que nous avons provoqué la colère de Dieu dans un domaine ou dans un autre? Est-ce que nous sommes prisonniers d'un vice? Est-ce que nous sommes prisonniers d'un péché? Est-ce que nous sommes à lutte avec quelque chose dont on n'arrive pas à se sortir? Quelle solution? Quelle solution? Quelle solution? Dieu se révèle dans la nature et il se révèle aussi dans l'histoire des hommes. 2000 ans avant Paul, Job avait déjà une solution pour sortir de cette impasse. Et nous sommes 2000 ans après Job, 2000 ans après Paul. Et donc 4000 ans en arrière, Job savait déjà des choses intéressantes dessus. Et est-ce qu'on pourrait lire, quelqu'un pourrait lire Job chapitre 28, les 8 derniers versets du chapitre 20, du verset 20 au verset 28. Job 28, du verset 20 au verset 28. Versets 20 à 28, la fin du chapitre.
Alors, d'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler, c'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre et il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des jours, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta, il en posa le fondement et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, témoigner du mal, c'est l'intelligence.
Ce texte présente pas la sagesse comme une construction de la pensée humaine, mais comme une personne que Dieu révèle. Et qu'il va révéler dans toute l'Écriture, cette personne, on connaît son nom, c'est Jésus-Christ, qui est la sagesse. Et que dit cette sagesse? La sagesse qui vient de Dieu dit simplement, la crainte de l'Éternel, et le commencement de la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Craindre Dieu et s'éloigner du mal. Voilà la solution que connaissait déjà Job de son temps. Craindre Dieu, s'éloigner du mal. Et donc, pour se sortir de cette situation, il faut non pas être dans le club de ceux qui approuvent, mais de prendre conscience et de dire non, tout ceci n'est pas bon. Dieu est juste, il a raison d'être en colère, je dois m'éloigner du mal. Je dois m'éloigner du mal. C'est ce qu'on appelle la repentance. Se sortir, vouloir se sortir de cette situation. Si Dieu a livré les hommes à leur passion, Dieu peut les en délivrer, les en faire sortir. Simplement, faut-il qu'ils le veuillent. Simplement, faut-il qu'ils le désirent. Ce qu'on appelle la repentance. Je vais terminer ceci par la suite du témoignage de M. K, dont je vous parlais tout à l'heure, ce jeune homme qui, dans ses recherches philosophiques, s'était éloigné, loin de Dieu, et avait fait du mal à son propre corps. Il a retrouvé Jésus par la lecture de l'évangile de Jean. Et il a repris ses études, et il est devenu professeur dans l'université. Et il a pris ensuite position pour la création dans son travail universitaire. Et ça lui a valu que l'université l'a retiré le droit d'enseigner. Mais il ne s'est pas découragé. Il a écrit des livres, il a défendu ses thèses, et l'université, devant son travail, la pertinence de son travail, a été obligée de le réintégrer. Et il a été réintégré à l'université, et il a un témoignage maintenant qui est tout à la gloire de Dieu. Donc Dieu livre, Dieu délivre. Il y a une vraie espérance et possibilité pour se sortir de ces pièges que de la rébellion contre Dieu, que d'avoir mis Dieu en colère. Il y a une porte de sortie. Je voudrais qu'on chante un chant maintenant, qui est un vieux chant, qui a été utilisé pour conduire à Jésus des centaines, sans doute des milliers de personnes. C'est un chant de l'armée du salut. Le machin qui s'appelle Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi tel que je suis, prends-moi. Ça va, c'est assez gros ou on grossit? Ça va, on boit? Peut-être grossir un peu quand même. Hop. On va faire différemment. Esportite. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint gourou. Fermez mon cœur à sa grâce, laissez le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Ô Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau s'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oui, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la révélation de ta colère. Merci parce que l'apôtre ne mâche pas ses mots et il est impossible de comprendre la grâce si on ne comprend pas la faute. Merci Seigneur de manifester la vérité et merci Seigneur de manifester la réalité de ce que nous sommes, ce que peuvent être nos vies. Merci pour le pardon qui se trouve auprès de toi. C'est toi qui livres, c'est toi qui délivres, Seigneur, et c'était une tellement bonne nouvelle de savoir que c'est toi qui restes le maître et le souverain sur toutes choses. Merci pour ta patience envers tous les hommes, merci pour ton appel, merci pour la prise de conscience que nous pouvons avoir chaque fois que nous provoquons ta colère, chaque fois que nous agissons avec injustice, chaque fois que nous commettons le mal. Seigneur, délivre-nous de tous ces fardeaux qui nous obsèdent. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Nous voulons, à la suite de Job, nous éloigner du mal, être intelligents pour nous éloigner du mal et avoir la sagesse, la crainte de ton nom, la crainte de qui tu es pour te donner la révérence, toi qui es le Dieu qui nous a créés et qui nous aime tant. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons te demander pour la suite du texte, Seigneur, qui est toujours difficile à entendre, mais Seigneur, que tu nous permettes d'en tirer le plus grand bénéfice pour mieux te comprendre, mieux te connaître et mieux te servir. Par Jésus. Amen. Oui.
Dans la Bible, dans Genèse, on nous parlait par exemple.